5h58, Mathieu Noël.
À l'heure de la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta, on commence par les températures un peu fraîches ce matin.
Oui, ça va de 2 petits degrés à Strasbourg en passant par 5 à Ajaccio, 7 à Nancy, 8 à Lille, non 8 à Bordeaux et Paris, 10 à Besançon, 12 à Marignane et 14 déjà à Toulon. Cet après-midi, la moyenne ira de 7 à 11 degrés sur la moitié nord et de 11 à 16 pour la moitié sud.
Côté ciel, c'est partagé.
Beaucoup de nuages, quelques averses, des éclaircies, ce sera le cas pour presque tout le monde aujourd'hui. En prime, on peut rajouter du vent sur les côtes atlantiques et celles de la Manche. Quelques coups de tonnerre possibles entre la Bretagne, la Gironde jusqu'au Limousin dans les terres pour ce matin. Orages qui s'étendront aux côtes de la Manche cet après-midi, là où on aura un petit peu plus de pluie et un ciel couvert. C'est sur le flanc est toute la journée. Le reste de la perturbation d'hier qui s'est décalée vers l'est avec du vent, de la neige sur les reliefs, surtout sur les Alpes. C'est plus calme en revanche de Toulouse à Montpellier et sur la Corse avec un temps sec et de larges éclaircies toute la journée.
Merci Céline Dacosta.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h où l'info la plus rigoureuse côtoie l'humour le plus haut de gamme. Notamment lorsque dans une scène de boulevard digne des plus grands succès de Jacqueline Maillan et Jacques Balutin, Eva Rock donne la réplique à Grégoire Martinez, notre expert high-tech.
Une raclette hier soir, j'ai l'impression de sentir le fromage.
Non, c'était pied.
Mais l'humour, fut-il d'aussi haut niveau, ne faisant pas tout dans la vie, Debout les copains, c'est aussi l'éclairage érudit de Fabrice d'Almeida, le monsieur histoire d'Europe. Fabrice, qui ce matin, à l'occasion de la sortie d'un film qu'il évoque, revient sur le personnage haut en couleur du multirécidiviste et roi de l'évasion, Vidocq.
Merci d'écouter Europe 1 ce mercredi 19 décembre. Il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 19 décembre, voici le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Les syndicats de police appellent à maintenir la pression dans les commissariats. Journée de mobilisation aujourd'hui. Cette nuit, une prime exceptionnelle de 300 euros a été votée à l'Assemblée. Insuffisant pour les forces de l'ordre. Le gros couac du gouvernement. L'espace de quelques heures hier, les mesures annoncées en novembre aux Gilets jaunes ont été annulées, puis rétablies. Et puis c'est l'une des raisons du début de la grogne. Le prix de l'essence, eh bien, il ne cesse de baisser depuis quelques semaines, conséquence de l'effondrement du prix du baril de pétrole.
Europe 1.
Les discussions entre le ministre de l'Intérieur et les syndicats de police vont reprendre aujourd'hui. Hier, les 3 heures de négociations n'ont rien donné, rien de concret selon les syndicats. Cette nuit, l'Assemblée a voté une prime exceptionnelle, 300 euros en faveur des forces de l'ordre mobilisées ces dernières semaines dans le cadre des Gilets jaunes. Mais les syndicats avaient déjà fait savoir que cette prime serait insuffisante. Écoutez Jean-Claude Delage, secrétaire général d'Alliance. Il appelle les policiers à ne pas sortir des commissariats aujourd'hui, sauf pour les urgences.
Cette négociation, elle nous a conduit à faire des propositions, ça a conduit le ministre à nous en faire de son côté. Nous ne sommes pas tombés d'accord, donc pour le moment nous sommes ni déçus ni satisfaits puisque les négociations continuent. Les arbitrages financiers sont nécessaires de son côté. Nous reviendrons donc tenter de conclure une négociation qui, je le dis, soit profitable à nos collègues sur la voie publique. Nous, notre souhait, c'est que les policiers soient récompensés durablement des efforts qu'ils fournissent depuis des années. On n'est pas là pour aller demander des choses qui soient juste, pardonnez-moi l'expression, une aumône. Nous sommes là pour faire comprendre aux ministres que les policiers sont en droit d'avoir une reconnaissance de la nation qui soit aussi une reconnaissance matérielle sur leur pouvoir d'achat durable.
Jean-Claude Delage du syndicat Alliance, unité SGPFO appelle aussi à la mobilisation aujourd'hui. Le mot couac n'a jamais aussi bien porté son nom. Double revirement de l'exécutif opéré hier à quelques heures d'intervalle. En milieu d'après-midi, Matignon a annoncé que 3 des 6 mesures décidées mi-novembre par le Premier ministre étaient annulées. L'extension du chèque énergie ou encore le relèvement du baromètre kilométrique. Réaction indignée immédiate de plusieurs députés de La République En Marche. Et en début de soirée, Matignon a donc reculé sur la reculade. Bref, les mesures sont maintenues. Une journaliste de France 3 Paris-Île-de-France frappée à la tempe alors qu'elle tournait des images sur un rond-point occupé par des gilets jaunes à Limay dans les Yvelines. Elle a été frappée avec une queue de billard. Impossible de savoir si l'individu qui l'a frappé appartient au mouvement.
La flambée du prix de l'essence, c'est ce qui a fait naître le mouvement des Gilets jaunes. Et bien depuis quelques semaines, le prix du carburant ne cesse de baisser.
Oui, vous l'avez peut-être remarqué en faisant le plein. Le litre de gasoil qui s'affichait en moyenne à 1,52€ en octobre a perdu 10 centimes. Conséquence directe du prix du baril de pétrole qui est à son plus bas niveau depuis un an. Benjamin Péter est allé à la rencontre d'automobilistes toulousains.
1,40€ le litre de diesel dans cette station à la périphérie de Toulouse, c'est presque 10 centimes de moins qu'à la mi-octobre, une aubaine pour Maxime qui s'apprête à retrouver sa famille pour les fêtes.
J'ai cherché parmi plusieurs stations pour comparer les prix et c'est vrai que les prix sont assez bas en ce moment. La dernière fois que les prix c'était environ 1,60€ je dirais. Après c'était sur autoroute donc c'est un peu différent aussi, mais là c'est à 1,40€ pour le gazole donc c'est quand même assez correct.
Cette baisse, ça signifie 5€ de moins à chaque plein pour Ophélie, une économie non négligeable.
Quand on fait un métier libéral comme moi, je suis infirmière, donc je fais des pleins régulièrement, donc vous le sentez, ça fait une nette augmentation quand ça augmente, et oui, une nette baisse, le plein n'a rien à voir.
Pourtant, pour Jean-Marc, qui arrive de l'Aude, la baisse est loin d'être proportionnelle à l'évolution du prix du pétrole.
Il y a une baisse, mais enfin, bon, les taxes sont beaucoup trop fortes. En France, le baril, il doit être à 50-60$, et on paye l'essence à peu près comme quand le baril, il y a 3 ans, je crois, était à 140$. Moi, je vais assez souvent en Espagne et on paye l'essence 1,21€ et on se fait en plus servir. C'est inadmissible.
Et les prix devraient pourtant continuer de baisser puisque le baril est passé depuis lundi sous la barre symbolique des 50$. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
La priorité est de revenir à un retour à la normale au plus vite sur les autoroutes. Déclaration hier de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui a reçu les représentants des sociétés d'autoroutes. Peu avant la réunion, Vinci a d'ailleurs fait savoir qu'il renonçait à récupérer l'argent des automobilistes passés gratuitement à travers ces péages lors des manifestations des Gilets jaunes.
Ce matin, les salariés d'Ascoval dans le Nord vont être fixés sur leur sort.
281 personnes qui, depuis plusieurs mois, vivent au rythme des reports, des annonces fracassantes. Sauf surprise, le tribunal de Strasbourg devrait donc se prononcer pour la reprise de l'usine par la société franco-belge Altifort. Écoutez le délégué CGT Nassim Bardi avec Lionel Gougelot.
On attend l'aboutissement d'un long combat qui a eu lieu déjà depuis 3-4 ans. Retrouver la sérénité, l'envie de travailler parce qu'il y a pas mal de salariés qui venaient avec la peur au ventre, avec le stress, certains avec de la colère. Donc travailler dans ces conditions-là, c'était pas favorable, hein. Surtout dans un milieu hostile qui est l'acier. Là, avec le nouveau repreneur, bon, on sait qu'il y a un challenge à relever avec des nouveaux clients. Vous savez, il y a pas mal d'entreprises qui se battent pour essayer de maintenir leur activité. Et à la fin, ça finit toujours mal. Nous, on va essayer de prouver à tous les salariés en France qu'on, quand on se bat, il y a toujours une issue favorable au combat. Tous ceux qui mènent un combat digne pour maintenir leur activité, voilà. Nous sommes peut-être l'exemple. Donc là, dès qu'on a une issue favorable, ça va nous faire du bien pour tout le monde. Mais en plus, s'il y a les fêtes de fin d'année, ce sera bon cadeau de Noël.
Nassim Bardi avec Lionel Gougelot pour Europe 1. Quasiment tous les stocks de vaccins contre la grippe ont été utilisés cette année. De nouveaux seront mis à disposition dans les jours qui viennent, a indiqué hier soir la ministre de la Santé Agnès Buzyn. En attendant, de nombreuses pharmacies sont en rupture de stock.
Des prothèses mammaires rappelées à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Oui, des implants à parois texturées de la marque Allergan ou Allergan. Ils ne peuvent plus être commercialisés en France et en Europe, annonce l'ANSM qui précise n'avoir pas identifié de risque immédiat pour la santé des femmes porteuses des implants concernés. En Belgique, la démission de Charles Michel ouvre une période de grande incertitude. Le Premier ministre a présenté sa démission devant la Chambre des députés hier, une annonce 9 jours après le départ des ministres nationalistes flamands. Il s'opposait à ce que la Belgique soutienne le pacte mondial de l'ONU sur l'immigration.
On vous en a déjà parlé sur Europe 1, la mode des selfies avec des lionceaux.
Oui, en octobre dernier à Marseille. Les douanes avaient trouvé un lionceau dans un garage. Un autre animal avait été découvert dans le Val-de-Marne ou même dans une voiture de luxe sur les Champs-Élysées un mois plus tard. Une nouvelle mode que décrypte ce matin pour Europe 1 Salomé Legrand.
Ils font des selfies, des clips de rap, postent avec dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs souvent par là que les autorités repèrent ces jeunes détenteurs de bébés tigres ou de lionceaux. Jean-Noël Riffel est délégué à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, en charge des enquêtes. Il a enregistré une dizaine de signalements depuis 6 mois.
Ce sont des personnes qui font parfois payer des selfies pour financer d'autres formes de trafic. On les louait aussi pour des soirées privées, plusieurs milliers d'euros. Ce sont souvent des gens qui sont très soucieux du prestige qu'ils peuvent obtenir en détenant des animaux comme ça, potentiellement dangereux, des animaux mythiques, hein, le roi de la savane. C'est vraiment pour se faire valoir temporairement et on s'en sert et puis après on le relâche dans la nature. Des gens globalement qui n'ont pas la conscience des risques, à la fois sécuritaires, sanitaires et l'impact en termes de bien-être animal que cela engendre.
Les derniers lionceaux saisis étaient déshydratés et mal en point. Quant à leur provenance, une enquête est en cours, notamment pour savoir s'ils sont de la même portée et pourraient être issus d'un élevage clandestin ou d'un cirque peu scrupuleux.
Salomé Legrand, il faut savoir que détenir de tels animaux, Mathieu, sans autorisation est puni de 2 ans de prison, 150 000 euros d'amende.
Je ne caressais pas ce projet-là, mais merci de m'informer des risques. C'était le journal de Céline Kallmann. Et Céline, pour conclure, une info sur vous dont on ne saura vraiment pas quoi faire une fois qu'on l'aura eu.
Ah, je crois qu'il n'y a rien qui me déprime plus qu'un arbre à chat.
En effet, inexploitable. Bien joué.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie d'un film avec Vincent Cassel, Fabrice Dalméda nous offre une plongée dans l'histoire à la rencontre d'une des figures les plus sulfureuses, les plus fascinantes aussi de la police française.
Navarro, j'écoute.
Non, Céline, non. Non, Vincent Cassel a longuement hésité entre le personnage de Navarro et celui de Vidocq. Finalement, il a choisi Vidocq. Mais qui était le vrai Vidocq? Fabrice Dalméda nous raconte.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo de ce mercredi 19 décembre. Un ciel mitigé aujourd'hui, vous vous engagez pas.
Non, c'est vrai, mais c'est le cas avec des nuages, des éclaircies, des averses. Ce sera le programme pour quasiment tout le monde. On a un petit peu plus de pluie sur le flanc est. C'est le reste de la perturbation d'hier qui s'est décalée. On retrouve ces pluies de l'Alsace à la région PACA avec du vent pour ce matin. De la neige sur les reliefs, surtout sur les Alpes. Elles vont se décaler à l'Alsace jusqu'aux Alpes du Sud pour cet après-midi. Ce sera orageux près des côtes atlantiques et celles de la Manche, surtout dans l'après-midi. Et puis, on a une zone un petit peu plus calme tout de même sur la Corse, avec du soleil. Et puis, entre le Languedoc-Roussillon et la région toulousaine, où là, on aura du soleil toute la journée et un temps sec. Les températures un petit peu fraîches par endroits ce matin, mais moins froides dans l'après-midi, puisque la moyenne sera de 9 à 16 degrés du nord au sud.
Merci Céline. Eva, beaucoup de messages d'auditeurs ce matin.
Mais oui, parce que quoi Mathieu?
Parce que plus que quelques dodos avant Noël.
Plus que 5 dodos avant l'arrivée du Père Noël. Et alors oui, on vous a demandé de nous raconter un souvenir d'enfance lié à Noël. Vous êtes nombreux, comme Gecko par exemple ou Jérémy, qui nous disent on se souvient pas franchement d'un souvenir propre à notre Noël. En revanche, on se souvient de ceux de nos enfants aujourd'hui qui sont les plus marquants, notamment Gecko avec sa fille dont il savoure chaque Noël depuis sa naissance. Geoffrey, lui, se souvient des Noëls chez sa tante. On nous offrait des jouets avant de les mettre au-dessus de l'armoire pour ne pas pouvoir jouer avec. C'était une cruauté totale, il nous raconte, effectivement. Et puis Philippe nous dit son meilleur souvenir, c'était de découvrir, alors qu'il ne s'y attendait pas, un ranch miniature de cow-boy avec tous les accessoires. C'est forcément lié aussi beaucoup aux jouets que vous avez pu avoir quand vous étiez petit, mais quand vous êtes grand aussi. Vous continuez à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe.
Ce qui vous ferait plaisir pour Noël, c'est une brosse à dents électrique. Je crois. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que vos amis proches m'ont dit. Oui, voilà. Elle marche bien, elle marche très bien. Merci Eva, merci à vous chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Mesdames, le moment tant attendu arrive enfin. Ce moment où, tout en faisant mine de vous intéresser aux résultats sportifs, vous allez pouvoir vous rincer l'œil gratis en matant le score sculptural, taillé dans le granit, avec juste quelques copeaux de cookies par-ci par-là, de notre journaliste sportif Jérôme Lacroix. Allez Jérôme, c'est Noël, montrez donc à Eva ce muscle incroyable que vous avez réussi à développer entre vos deltoïdes et vos dorsaux. Voilà, regardez-moi ça Eva.
Je ne savais même pas que ça existait.
GG la fait. Voici le journal des sports d'un type qui d'évidence s'y connaît. À la une du JDS aujourd'hui, l'histoire de l'homme qui faillit être un héros.
C'était hier soir à Orléans, 69e minute du match Orléans-PSG en Coupe de la Ligue. Les joueurs de Ligue 2 défient les surpuissants parisiens devant 9000 personnes. Les hommes du Loiret sont menés 1-0 et le Sénégalais Joseph Romeric Lopi égalise. Superbe frappe de loin, but infligé au charismatique gardien italien Gianluigi Buffon. Un moment de grâce, et même si l'issue sera décevante, les Orléanais valeureux ont finalement perdu ce match de 1. Le jour est mémorable pour Joseph Romeric Lopi.
Marqué contre Gigi Buffon, c'est extraordinaire, c'est une légende. Malgré le but, on perd quand même, mais voilà, je retiens quand même le fait de marquer contre Buffon, c'est quelque chose de magique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est mission accomplie. Quand on regarde la physionomie du match, je ne pense pas qu'ils aient forcément beaucoup plus de situations que nous. Donc au final, on peut être un petit peu fiers de nous quand même.
Des propos recueillis, oui, par Julien Froment. Suite et fin des huitièmes de finale de cette Coupe de la Ligue. Aujourd'hui, 7 matchs, dont Amiens-Lyon à 18h45 et Marseille-Strasbourg à 21h05. En Ligue 1, les Canets ont battu hier sur le fil les Toulousains 2-1. C'était un match en retard de la 18e journée au classement, quand 16e, Toulouse 15e.
La situation de crise à Manchester United intéresse décidément le foot français.
Et oui, l'entraîneur José Mourinho a été limogé hier pour des résultats jugés décevants. Seulement 6e du championnat, plus mauvais départ du club depuis 28 ans. Et les soubresauts sont bien sûr suivis. Du côté du PSG, c'est le futur adversaire en huitième de finale de la Ligue des Champions en février et mars prochain. Mais la destinée mancunienne pourrait aussi concerner des entraîneurs français. Plusieurs sont susceptibles de prendre le poste dont le plus coté du moment, Zizou, Simon Rubin.
Du côté de Manchester United, on pense à Zinedine Zidane, mais impossible de le faire venir dès cet hiver, ça semble assez clair. Alors pour faire l'intérim jusqu'en fin de saison, on pense surtout à Laurent Blanc. On peut vous confirmer que c'est une piste crédible aux yeux des dirigeants de Manchester United. Il a joué au club, il a de l'expérience, il parle anglais, il est libre de tout contrat. Il pourrait ainsi entraîner jusqu'à l'été, voire plus si ça se passe bien. Écoutez d'ailleurs ce que nous disait Laurent Blanc il y a quelques semaines semaines quand Corinne Boulou lui demandait quel club pourrait lui convenir.
Ce qui me plairait, c'est d'avoir un club ambitieux, un projet ambitieux. Je le pense vraiment, je peux être meilleur. Parce que l'expérience du Paris Saint-Germain m'a permis d'acquérir encore plus d'expérience, de vivre certaines situations. Et je pense que si elle se représentait devant moi, je saurais les gérer peut-être mieux que ce que je l'ai fait.
Le club de Manchester semble donc cadré avec les attentes de Laurent Blanc. Son nom a été évoqué par le club. Voilà où on en est. Et si cette piste n'aboutit pas, Manchester devrait se tourner vers d'autres anciens du club pour assurer l'intérim jusqu'à l'été.
Les informations de Simon Rubin et par ailleurs le journal anglais Daily Mirror croit savoir que Manchester United va verser 25 millions d'euros d'indemnité de licenciement à José Mourinho qui était sous contrat jusqu'en 2020.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
L'histoire d'une pionnière, Aurélie Groiselot, 29 ans. Elle va devenir le 9 mars prochain en Angleterre la toute première française à arbitrer une rencontre du tournoi des Six Nations de rugby féminin. La Fédération internationale l'a annoncé hier. Ce sera la rencontre Angleterre-Italie. 10 ans qu'elle arbitre et elle a déjà dirigé des garçons dans les divisions amateurs.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix et tous les matins, c'est la même problématique. Comment passer de Lacroix à Dalméda ? De l'analyse sportive à l'analyse historique. C'est un peu d'étranges mélanges des genres tout de même. C'est un peu comme si les chœurs de l'armée rouge reprenaient Daft Punk. Oh merde, ils l'ont fait.
Non, non.
Bon, voici, bah oui, tout existe. Néanmoins, Fabrice Dalméda arrive et à l'occasion de la sortie d'un film sur Vidocq, il revient sur l'histoire du vrai Vidocq, personnage fascinant, tour à tour délinquant, bagnard, puis policier et enfin détective privé.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui sort donc sur les écrans le film événement L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel dans le rôle principal. Il évoque un personnage historique, Vidocq. Qui était le vrai Vidocq ?
Un homme de sac et de cordes. Un aventurier, militaire, voleur, bagnard, évadé, repris de justice, mouchard, indicateur du préfet de police de Paris, puis chef de la sûreté ayant même accès au cabinet des ministres. Pour le décrire, commençons par son physique. Il n'était pas très grand, environ 1m67, avec une belle carrure, bien qu'un peu rondouillard. Pas vraiment le physique musculeux de Vincent Cassel. Il était originaire d'Arras, et comme beaucoup d'hommes du Nord, il n'était que blondeur, des cheveux, de la barbe, de la moustache qu'il apportait parfois. Sa qualité première, se déguiser pour infiltrer les milieux qu'il voulait voler, au début de sa carrière, puis surveiller après.
Et quelle a été sa plus grande réussite ?
Vidocq a démantelé plusieurs bandes organisées et complots, mais sa vraie réussite, ce sont ses mémoires. Il les a écrites en 1827, à un moment où sa carrière policière est arrêtée. Elles sont un succès de librairie. Il s'y donne le beau rôle, même quand il dévoile avoir volé ses proches et même trahi sa parole. Une conception étrange de l'honneur en découle, où tout est permis contre les bandits. Mais ruiné, Vidocq revient au service du roi Louis-Philippe. Il est présent lors de la révolte des 5 et 6 juin 1832, ces émeutes républicaines décrites par Victor Hugo, vous savez, dans Les Misérables. C'est là que meurt Gavroche. Dans le roman, c'est aussi le moment où Javert, le policier inflexible, se suicide. Vidocq, lui, au contraire, va voir le roi Louis-Philippe et lui dit avoir éteint le soulèvement à lui tout seul. La modestie n'est pas vraiment son fort.
Et quand est-il mort, ce Vidocq ?
Il meurt en 1857 à 81 ans de vieillesse. Non sans avoir encore repris du service comme indicateur après la révolution de 1848. Il s'était même fait enfermer en prison pour dénoncer les ouvriers émeutiers. Depuis, ses mémoires ont continué leur chemin et inspiré écrivains et cinéastes. Il s'amuserait sans doute aujourd'hui d'être devenu un héros populaire.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain, juste avant 6h15.
Europe 1, il est 6h17, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures de bonne humeur, d'actu et pour aller plus loin, d'interviews. Des interviews menées par votre serviteur avec la complicité d'Eva Rock qui elle aussi, chaque jour, travaille cette interview afin d'avoir une ou deux questions à poser à notre invité de 6h20. Et hier, Eva avait une fois de plus beaucoup bossé.
Merci d'être là. On prononce pas le S de votre nom de famille, on est d'accord, hein ?
Non, d'autant plus qu'il n'y a pas de S dans mon nom. Donc.
Comme ça, c'est réglé.
C'est plus simple. Aujourd'hui, à 6h20, attention
vous
Eva.
Vous saviez même pas prononcer son nom.
Attention Eva. Aujourd'hui, nous recevons Capucine Cousin, mais le Y est muet.
Oui.
Alors, Netflix modifie notre rapport au cinéma et où un film primé comme Roma, le dernier Alfonso Cuarón, ne sert même plus en salle, mais juste visible sur la célèbre plateforme. Nous nous demanderons jusqu'où ira Netflix avec donc Capucine Cousin, journaliste, auteur d'un livre intitulé Netflix, les coulisses d'une révolution. Mais avant la révolution, Céline, soyons pragmatiques.
Oui, soyons pragmatiques. C'est le moment d'écouter la fausse pub diffusée hier sur Europe 1.
Si c'est le moment, alors ne boudons pas notre plaisir.
Et c'est l'heure de retrouver le coup de fil royal.
Aujourd'hui, j'ai l'extrême honneur de pouvoir parler au téléphone avec son Altesse Louis XX, duc d'Anjou et chef de la maison de Bourbon. Or, à ma grande surprise, j'ai appris que Louis XX donnait son plein et entier soutien aux gilets jaunes. J'avoue en être resté comme deux ronds de flanc. Allô, votre Altesse ?
Je ne suis pas là, c'est pour ça qu'il ne peut pas vous répondre. Il laisse votre message une fois que vous avez entendu les top sonores.
C'est pas Louis XX, on dirait Garcimore, non ?
Le coup de fil royal en podcast, dès qu'il aura retrouvé le bon numéro.
Et oui, une fausse pub peut débarquer à tout moment sur Europe 1, Céline. C'est le top départ de notre grand jeu. Mais alors, comment participer ?
Eh bien, c'est très simple. Dès que vous entendez.
Ouais, depuis le temps qu'on dit, vous n'avez toujours pas retenu la
règle. Non, toujours pas.
C'est simple. Vous entendez la fausse pub, vous nous envoyez pub par SMS au 7 39 21, 75 centimes plus le coût du SMS. Ou alors vous appelez le 39 21, 50 centimes par minute. On vous souhaite bonne chance. En jeu, la toute dernière Apple Watch Série 4. Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Fermons les commissariats, mot d'ordre maintenu aujourd'hui. Les discussions entre les syndicats de police et le ministère de l'Intérieur vont reprendre ce matin. Cette nuit, l'Assemblée a voté une prime exceptionnelle de 300 euros en faveur des forces de l'ordre. Un double revirement à quelques heures d'intervalle. Après discussion avec les parlementaires, le gouvernement a finalement décidé de maintenir toutes les mesures annoncées en novembre. Matignon avait annoncé et renoncé pourtant quelques heures plus tôt. Dans l'actualité également, le Premier ministre belge Charles Michel a démissionné 9 jours après le départ des ministres nationalistes flamands. Il s'opposait à ce que la Belgique soutienne le pacte mondial de l'ONU sur les migrations.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici donc pour les titres de ce mercredi 19 décembre. Il y a quelques jours, Netflix, la plateforme de vidéo à la demande, mettait en ligne Roma, le dernier long métrage d'Alfonso Cuarón, sacré par le Lion d'Or à la Mostra de Venise, mais aussi une nouvelle série française, Planqueur. Comment Netflix a réussi à s'imposer dans le paysage audiovisuel mondial, bousculant l'industrie cinématographique et nos habitudes télévisuelles? Bonjour Capucine Cousin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste économique et spécialiste des nouvelles technologies. Vous venez de publier Netflix et compagnie, les coulisses d'une révolution, édité chez Armand Collin. Un long métrage récompensé dans un des plus grands festivals de cinéma et qui ne sort pas au cinéma, Roma, est-ce que c'est pas un peu contre nature? Est-ce que Netflix... et comme le disent certains, le fossoyeur du 7e art.
C'est toute l'ambiguïté de Netflix. Roma, il a été primé à un festival de cinéma international, Festival de Venise. Il a été réalisé par un cinéaste, Alfonso Cuarón, qui est connu des cinéphiles mais aussi du grand public, qui avait réalisé Gravity. Et là, boum, il sort directement sur Netflix. Donc il y a au moins 170 millions d'abonnés à Netflix dans le monde qui vont pouvoir le voir, quasiment en exclusivité, puisque ce film, il est proposé uniquement sur la plateforme Netflix. Il sort juste dans une poignée de salles, par exemple à Rome ou à New York, mais pas en France, en raison de ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui interdit de sortir des films à la fois en salle et sur une plateforme en télévision.
Alors, cette chronologie des médias, justement, ce terme un peu technique, c'est quand même, il faut en parler, il faut déjà expliquer ce que c'est. Eva, vous qui êtes la spécialiste média, expliquez-nous ce que c'est que la chronologie des médias.
En fait, c'est le temps obligatoire qu'on impose entre la sortie d'un film au cinéma et ensuite sa diffusion sur un écran, alors soit sur une chaîne du service public ou TF1 ou sur une chaîne cryptée, les temps sont pas les mêmes. Et on a l'impression que Netflix semble un peu se moquer de cette législation. Eux, l'objectif, c'est de sortir les films quand ils veulent, dès qu'ils peuvent, quoi.
En fait, l'objectif du fondateur de Netflix, Reed Hastings, c'est de proposer à ses téléspectateurs des films et des séries télé en exclusivité, donc des contenus exclusifs qui justifient que les abonnés paient en moyenne 10 euros par mois d'abonnement.
Moi, j'ai une question du point de vue des réalisateurs, des artistes, notamment Alfonso Cuarón, qui peut être considéré comme un faiseur, mais aussi comme un artiste. À quel moment il décide de passer du côté de Netflix, sachant que son film ne va pas sortir en salle ou dans très peu de salles? C'est bizarre pour un cinéaste qui, souvent, sont très attachés au côté emblématique d'une salle de cinéma, qui a une vision différente. On ne regarde pas un film au cinéma comme on le regarde devant un écran plus petit chez soi. Comment les réalisateurs franchissent le pas? Qu'est-ce qui les séduit chez Netflix?
Netflix a beaucoup d'argent, alors qu'Hollywood est en difficulté financière. C'est-à-dire qu'on a une certaine prudence du côté d'Hollywood, qui produit actuellement plutôt des remakes ou plutôt des très très gros films à très gros budget, des blockbusters de super-héros, etc. Au point que les réalisateurs ont parfois du mal à trouver, à boucler leur budget pour des très gros projets de films et à leurs conditions.
Donc, effectivement, ça devient intéressant d'un point de vue financier et de liberté de création, visiblement, ce que vous dites, pour les réalisateurs. Donc, on comprend. Et côté spectateur, qu'est-ce que ça change pour les téléspectateurs? C'est quand même une révolution.
Oui, parce que ça veut dire que je peux voir un vrai film de cinéma réalisé par un grand réalisateur aux conditions du réalisateur, puisque apparemment, ils ont une marge de manœuvre total ou quasi total sur leur budget, leur casting, le final cut, etc. Je peux voir ce vrai film de cinéma directement sur ma télévision ou sur mon ordinateur ou sur ma tablette via mon abonnement Netflix.
Ça paraît un tout petit peu pointu, mais j'ai bien envie d'insister là-dessus parce que je le découvre avec vous. Aux États-Unis, il faut savoir qu'en France, le réalisateur a quasiment tous les droits sur un film. Aux États-Unis, c'est le producteur qui décide comment est monté le film. Et donc souvent, les films hollywoodiens qu'on voit sont le fruit d'un compromis entre les studios et le réalisateur. Ce que vous nous dites, c'est qu'avec Netflix, les réalisateurs ont les coudées franches pour faire le film qu'ils ont vraiment envie de faire.
Il semblerait que oui. Comme de toute façon, Netflix a intérêt à recruter des grands réalisateurs d'Hollywood, parce que pour lui, en termes d'image de marque, c'est très important pour s'imposer dans l'univers du cinéma. Oui, il leur laisse une marge de manœuvre totale.
Est-ce que les télévisions françaises qui évoquent la création d'une plateforme baptisée Salto ont les moyens de rivaliser avec Netflix?
Non, ils n'auront jamais le même budget, parce que Salto, quand son lancement a été annoncé, confirmé par Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, le budget annoncé était de 60-70 millions d'euros, ce qui est très peu au vu des budgets énormes qu'annonce Netflix pour chacun de ses budgets. Parce que là, Netflix, pour l'année 2018, il annonçait un budget d'au moins 8 milliards de dollars en création et acquisition de contenus originaux. Évidemment, les chaînes ne pourront jamais s'aligner, mais au moins, elles peuvent quand même se battre en produisant leur propre contenu avec leur touche locale.
Oui, mais alors, pour rebondir sur ce que vous dites, comment on s'y retrouve en tant que consommateur? Parce qu'on ne peut pas s'abonner à toutes les plateformes, Salto va être payant, Netflix est payant, Amazon Vidéo, qui est une autre plateforme, est payante. Est-ce que ce n'est pas la limite de ces nouveaux modes de consommation, à savoir qu'il va y avoir des morts dans ce combat-là, dans cette concurrence-là?
Bien sûr, d'autant qu'il y a d'autres géants qui vont arriver l'année prochaine. Il y a Disney qui va débouler avec sa propre plateforme de vidéo à la demande. Pour l'instant, c'est vrai que les différentes offres ne se distinguent pas vraiment. Je pense que la bataille va se jouer sur la qualité des catalogues et des productions originales, voire le positionnement qu'ont les uns et les autres. Parce que Disney, ce sera plus famille. On pense à Disney Channel, etc.
Pour finir, Capucine Cousin, est-ce que tout simplement Netflix peut tuer la télévision et le cinéma, voire les deux?
Je pense pas quand même, parce qu'on a eu ce même débat dans les années 80, lors des débuts de la cassette vidéo, puis lors du lancement de Canal+, en 1984. Je pense que c'est une forme complémentaire de consommation de la télévision, de l'image, des films.
Merci beaucoup Capucine Cousin d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Netflix et compagnie, les coulisses d'une révolution, chez Armand Collin.
Merci.
Europe 1. Et les 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de Sébastien Krebs. La météo revient, la pluie aussi.
Europe 1.
Avec Nico Seliagas sur Europe 1.
Contre-champ sur l'événement.
Est-ce que cette colère, vous la ressentez parmi les habitants aujourd'hui?
Mise au point sur votre actualité.
Ça vient de tomber sur Europe 1 ce matin dans la matinale.
Gros plan sur votre quotidien.
J'ai un travail, mon mari a un travail. Et malgré ça, on est en train de réduire sur l'alimentation, sur tout ce qui est chauffage.
La matinale de Nico Seliagas.
2 heures d'infos en haute définition.
Rendez-vous tous les matins de 7h à 9h sur Europe 1.
Il est 6h26, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, l'heure d'un point sur la météo avec vous. Quel temps pour cette
journée
du 19 décembre.
Mitigée avec encore de la pluie pour l'Est. C'est notre perturbation d'hier qu'on retrouve ce matin de l'Alsace-Lorraine jusqu'à la région PACA avec des averses localement soutenues, du vent, de la neige sur les reliefs, surtout sur le Massif central et les Alpes à partir de 1300 mètres. Ailleurs, c'est un ciel partagé entre nuages, éclaircies, averses. Elles sont parfois orageuses près des côtes d'Atlantique. Du vent également sur les littoraux. C'est plus calme en revanche avec même de larges éclaircies du sud toulousain en Languedoc-Roussillon. Et sur la Corse, quant aux températures, elles vont ce matin de 2 petits degrés à Strasbourg, en passant par 5 à Ajaccio, 7 à Nancy, à Lille, 8 à Bordeaux et Paris, 10 du côté de Besançon, 12 à Marignane et 14 à Toulon.
Peu de changements cet après-midi,
oui,
Céline.
Ce sera calme et relativement ensoleillé encore en Corse et de la Haute-Garonne à l'Hérault. Encore des averses sur le flanc est de l'Alsace aux Alpes du Sud. Et pour les autres, toujours ce ciel mitigé, nuages, éclaircies, averses, voire quelques coups de tonnerre près des côtes, accompagnés d'un vent toujours sensible. Côté thermomètre, la moyenne ira de 7 à 11 degrés sur la moitié nord, 11 à 16 degrés, ça reste très doux sur la moitié sud.
Merci Céline. Eva, comment se portent nos auditeurs?
D'après vous
hein. Oh mais fort bien, parce qu'on est à 5 dodos de Noël.
Et ils attendent l'arrivée du... Père Noël. Alors on leur a demandé depuis 5 heures ce matin.
C'est vraiment Noël pour
raconte,
les nuls. Hein,
ouais, qui nous raconte un souvenir d'enfance lié à Noël. Eh bien c'est Patrick qui nous a raconté qu'il se souvient du Père Noël buvant son verre de lait. Je le vois encore faire chute avec son doigt posé sur sa barbe. Personne ne m'a jamais cru. On n'a jamais cru cette histoire jusqu'au jour où mon père m'a avoué que c'était... Eh ben non, je ne vous dirai pas la fin de l'histoire.
Ah ben non, ne révélez pas ça.
Je
ne
dis rien
Eva.
Du tout. Voilà.
Merci Eva.
Merci pour vos messages.
Merci chers auditeurs. À suivre dans une minute, le journal de 6h30.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'infos, de rire et aussi de belles découvertes, comme hier, vers 5h15 du matin, cette heure où déjà spontanément vous avez du mal à distinguer le rêve de la réalité, voire en l'occurrence le cauchemar de la réalité, et où nous avons découvert ensemble, avec mes complices du petit jour Céline et Eva, une reprise que, par goût de l'euphémisme, je qualifierais d'étonnante. Mika chantait « Vive le vent ». Et forcément, en off, il y a eu des réactions.
Très très bizarre. Qu'est-ce qui lui a pris ?
C'est une fausse chanson après la fausse pub.
C'est horrible. Mais non.
Là, c'est le pompon, si j'ose dire. À suivre, les amis. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent avec au programme ce matin la valse hésitation du gouvernement. Annonce, annulation, puis annulation de l'annulation. Le gouvernement avait renoncé hier à plusieurs mesures annoncées au début du mouvement des Gilets jaunes. Avant donc de revenir sur cette annulation, Mickaël Darmon nous raconte les coulisses de ce couac.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Gouvernement et députés en plein sprint pour mettre en application les mesures promises par le président aux Gilets jaunes. Présentation d'un texte en Conseil des ministres ce matin. Il devra être voté par l'Assemblée et le Sénat en l'espace de 3 jours. Et puis le lancement du grand débat national. L'inquiétude des commerçants des centres-villes à une semaine de Noël. La crise a coûté cher. La ville de Bordeaux annonce des nocturnes et le stationnement gratuit pour tenter de limiter la casse. Dans ce journal également, le vaccin contre la grippe en rupture de stock. Et puis nous vous dirons quels seront les jouets stars sous le sapin dans une semaine.
Europe 1.
Les ronds-points occupés par les Gilets jaunes ont commencé à être évacués dans plusieurs régions avec démantèlement des petits campements qu'ils avaient construits. Et pendant que certains menacent de revenir pour maintenir la pression, le gouvernement a lancé la course contre la montre pour mettre en musique les promesses du président. Le projet de loi portant ces mesures d'urgence sur le SMIC, les heures supplémentaires, la CSG des retraités, sera présenté ce matin en Conseil des ministres et doit être voté d'ici vendredi par l'Assemblée et le Sénat. Emmanuel Macron veut aussi aller vite sur le grand débat national qui serait lancé courant janvier. On commence à en connaître les contours depuis une réunion hier soir à l'Élysée. Jean-Rémy Bodo.
Le président attache une importance énorme au débat. Il l'a dit au moins 15 fois, explique un ministre présent hier soir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Un rendez-vous en petit comité pour tenter de rendre lisible cette promesse de débat devenue encombrante. Concrètement, il y aura 2 phases. La première devrait permettre jusqu'à mi-janvier de faire remonter via les maires les doléances des Français. Puis ensuite, 2 mois d'échanges sur les thèmes annoncés par le Premier ministre. Fiscalité, transition écologique, organisation de l'État ou encore citoyenneté. Reste à savoir comment seront traités les résultats de ces consultations. Seront-ils déclinés concrètement, visiblement dans le quotidien des Français ? Dans l'entourage de certains ministres, on craint que le gouvernement ne se fasse déborder, que la réponse ne soit pas à la hauteur des attentes de certains gilets jaunes, notamment sur le référendum d'initiative citoyenne ou les questions d'immigration. Quand on fait un débat, on doit déjà avoir la réponse à une bonne partie des questions, sinon on va droit dans le mur. Confie, inquiet, un conseiller.
Jean-Rémy Bodo du service politique d'Europe 1. Et juste avant, le président avait reçu les dirigeants des mutuelles et assurances pour une séance de recadrage. Rendez-vous visiblement tendu. Plusieurs mutuelles avaient annoncé une hausse de leurs tarifs. Pour l'exécutif, il en est hors de question. Le président leur a donné 48 heures pour prendre des engagements et elles semblent prêtes à faire des efforts. Écoutez Bernard Spitz qui préside la Fédération française de l'assurance.
L'ensemble des complémentaires a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation en 2019 des tarifs des complémentaires qui soient liés en quoi que ce soit. Zéro, je crois que c'était une clarification nécessaire et on va travailler avec le ministère pour les années suivantes s'assurer donc de la meilleure prise en compte de la réforme. Alors pour le reste, on a une réflexion sur la politique tarifaire, notamment un engagement de contraintes sur les frais de gestion. De ne pas augmenter les frais de gestion et de les baisser dans la mesure du possible.
Bernard Spitz avec François Geffrier. Les policiers maintiennent leur journée morte dans les commissariats aujourd'hui. Plusieurs syndicats appellent à ne répondre qu'aux appels d'urgence. Ils ont été reçus hier par le ministre de l'Intérieur. Une prime de 300 euros a été promise à tous les agents mobilisés pendant la crise des Gilets jaunes, mais ils demandent encore des mesures pour leurs conditions de travail.
Et après un mois de crise des Gilets jaunes, on commence à en mesurer l'impact sur l'économie.
L'INSEE a dû revoir ses prévisions. Croissance divisée par 2 au quatrième trimestre. Sur l'année 2018, elle ne devrait pas dépasser 1,5%. Le gouvernement en espérait 1,7%. À une semaine de Noël, de nombreux commerçants sont gagnés par l'inquiétude impactée par une baisse drastique de la consommation à cause des manifestations des différents week-ends. C'est notamment le cas dans le centre-ville de Bordeaux où, pour tenter de limiter la casse, la ville vient d'annoncer toute une série de mesures, stationnement gratuit et nocturne autorisé dans les boutiques du centre-ville. Reportage de Stéphane Place.
Un peu d'inquiétude et beaucoup de lassitude dans le regard. Cette vendeuse bordelaise raconte qu'elle n'a pas fait une vente samedi dernier. Du jamais vu dans cette boutique à quelques jours des fêtes de fin d'année. Dans cette autre rue du centre-ville, un peu plus loin, rue des Remparts, où les chiffres d'affaires sont aussi en chute libre, les commerçants, eux, ont décidé d'organiser des nocturnes jeudi et vendredi. Delphine Marangui tient un magasin de bijoux.
On va essayer de créer un créneau supplémentaire plage horaire d'achat de 7h à 20h30. Il y a des frais d'animation, des heures supplémentaires qu'on va devoir payer, mais bon, c'est comme ça. À mon avis, on va limiter les dégâts. On n'arrivera pas à rattraper ce qu'on a perdu.
Et pour faciliter l'accès au commerce, durant 3 jours, la mairie de Bordeaux va transformer la plus grande place de la ville en parking gratuit. Maribel Bernard, conseillère municipale.
La place des Quinconces, c'est la plus grande place de Bordeaux. Ça va représenter entre 300 et 400 places gratuites, samedi, dimanche et lundi, et permettra aux clients de pouvoir venir en centre-ville et consommer. C'est notre manière d'aider les commerçants de la ville.
Autre mesure municipale de compensation, une exonération de taxes pour les cafés et restaurants qui n'ont pas pu utiliser leurs terrasses à cause des manifestations. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Journée décisive pour l'avenir d'Ascoval. La reprise par le groupe Altifort de l'aciérie menacée à Saint-Saulve dans le Nord doit être entérinée aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Strasbourg avec 281 emplois à la clé. Et puis la reconversion dans le privé d'une ancienne ministre épinglée, Fleur Pellerin, est soupçonnée de prise illégale d'intérêt par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L'ancienne ministre de la Culture est pointée du doigt pour ses liens avec un géant du web sud-coréen avec lequel elle travaille aujourd'hui et qui fut l'un de ses interlocuteurs lorsqu'elle était au gouvernement.
À suivre dans ce journal rué sur les vaccins contre la grippe. Les pharmacies sont déjà en rupture de stock. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h36. Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal, Sébastien Krebs. Et on ne trouve plus du tout de vaccins contre la grippe dans les pharmacies.
Alors heureusement, l'épidémie n'a pas encore commencé. Mais les Français ont été bons élèves cette année, au point que quasiment tous les stocks d'injections ont été utilisés. 11 millions de doses écoulées. Résultat dans les pharmacies, c'est la pénurie.
On n'a plus rien, même chez les grossistes, non plus. Impossible d'en avoir. Et vous allez voir que c'est partout pareil dans toutes les pharmacies. Là, je ne peux pas ni vous garantir si je peux vous le commander pour demain ou après-demain ou dans 3 semaines. L'an dernier, non, je n'ai pas ressenti ça.
On a eu quelques personnes qu'on a dû refuser, oui, forcément. Chaque année, c'est des souches différentes, donc il y a un stock limité à chaque fois. Nous, on a commandé en fonction de ce qu'on a vendu les années précédentes, mais on a tout vendu avant la fin de l'hiver.
Après, chaque pharmacie fait ses stocks pour l'année suivante, mais on fait la commande 10-12 mois avant, donc c'est un peu dur de prévoir. C'est parce que justement, la communication a été extrêmement bonne, peut-être au niveau du gouvernement, donc les gens se sont peut-être plus vaccinés. Voilà pourquoi, là, on ne peut plus en recommander chez le grossiste.
Témoignage recueilli par Côme de Lannery pour Europe 1. Et si vous n'êtes pas vacciné, il n'est pas tout à fait trop tard. De nouvelles doses d'injection devraient être disponibles tout début janvier.
Et on termine ce journal, Sébastien, avec un petit tour dans la hotte du Père Noël.
Vos enfants ont peut-être terminé leur liste. Et si ce n'est pas le cas, voici un aperçu de ce qu'on risque de retrouver sous de nombreux sapins la semaine prochaine. Les jouets stars de ce Noël, détaillés par Maud Descamps.
La grande nouveauté, le grand carton attendu cette année, ce sont les jouets mystères dans lesquels se cachent des mini-poupées ou des animaux miniatures. Depuis un mois, ils sont en tête des ventes. Chez les adultes, c'est le Burger Quiz qui décroche la première place sous le sapin cette année. Mais ces nouveautés ne suffiront pas à détrôner les indémodables, selon Adrien Vincent de Révélancy.
C'est les jeux de société, les Monopoly, les Puissance 4, les Docteurs Maboule, les pâtes à modeler, et bien entendu, Lego, Mattel, tout ça, ça reste toujours dans le top 5. C'est des classiques parmi les classiques, quelles que soient les tranches de population, quelles que soient les régions.
Autre classique, autre succès attendu, les Playmobil. Observe Franck Maté de Jouet Club.
Playmobil qui reste une valeur sûre à Noël, avec des grands classiques comme par exemple le commissariat de police ou bien une valisette pour jouer à la garderie. Ça, c'est vraiment des grandes valeurs sûres.
Dans les rayons des magasins depuis 1974, les Playmobil figurent parmi les jouets les plus achetés par les grands-parents.
Les grands classiques, vous avez fait votre liste, Mathieu ?
Oh, bah évidemment, Playmobil. Tout est déjà fait. Le Père Noël a déjà tout bien préparé.
Le foot, le PSG s'est un peu fait peur hier soir à Orléans, mais sera bien le premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Victoire 2-1. Ce soir, l'OM accueille Strasbourg à 21h. Dans un contexte un peu compliqué, les supporters excédés par les mauvais résultats du club ont appelé au boycott du Vélodrome.
Merci, c'était le journal de Sébastien Krebs. Et tout de suite, Sébastien, voyons si vous avez été à la hauteur de l'exercice avec le titulaire du poste. David Doucan, absent aujourd'hui pour cause de stage de récupération de points de permis de conduire. Je vous avais dit, David, de ne pas pousser la stone. Qu'est-ce que vous avez fabriqué ?
Oui, bah écoutez, personne n'est infaillible. C'est vrai qu'il a pu m'arriver d'aller un petit peu trop vite, ce qui n'est vraiment pas du tout une bonne chose.
Ah, pas du tout, David.
Pas du tout le bon exemple. Non. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je vais accomplir ce stage avec plaisir. Mais le problème, c'est qu'évidemment, ça me prive de vous.
Ah oui, je vous sens en manque.
Bon, voilà, donc je vous ai écouté, parce qu'on est tous en jet lag, hein, il ne faut pas se mentir. À 4h du matin, on a les yeux grands ouverts, impossible de se rendormir. Donc je vous ai écouté avec grand plaisir. J'ai écouté Sébastien, que j'ai trouvé remarquable.
Alors, ah oui, moi vraiment, aussi. Hein.
Bon, merci beaucoup.
Vraiment,
merci,
j'ai
patron.
Trouvé qu'il y avait de la rigueur, mais à la fois aussi
Joe
de
la flagornerie, ouais.
et de la chaleur.
Mais bien sûr.
Et de la chaleur. Donc c'était formidable, vous êtes bon, on vous écoute
on
avec
continue
plaisir.
Comme ça alors. Merci,
ouais, continuez
merci
comme ça.
Merci Maître
ouais.
Doucan et bonne chance pour cette journée de récupération de points.
Merci, merci à vous.
Céline Dacosta, on passe à la météo.
Avec de la pluie encore sur l'est du pays, c'est le reste de la perturbation d'hier, des averses parfois soutenues de l'Alsace à la région PACA. C'est plus calme et sec entre la Haute-Garonne et l'Hérault avec du soleil et ça toute la journée, partout ailleurs. Ce sera mitigé, nuages, éclaircies, averses, des orages même pour éclater sur les côtes atlantiques et celles de la Manche. Cet après-midi avec du vent. Quant aux températures, elles restent plutôt douces pour la saison avec cet après-midi une moyenne de 9 à 16 degrés du nord au sud.
Eva Rock.
Ah oui, c'est encore à moi.
Bah c'est encore à vous.
On
dis
a
donc,
reçu
vous avez une question
on a reçu le plus beau message de la matinée.
Ah ouais.
On
c'est
a demandé
vrai.
Aux auditeurs de nous raconter un souvenir de Noël. C'est Catherine qui nous dit mon plus beau souvenir, ma fille qui posait toutes ses chaussures au pied du sapin, ses dessins pour le Père Noël et puis le fameux verre de lait et ses cookies. Elle nous dit que bon, elle peut pas manger les cookies et le lait sa maman, mais voilà.
Ah bah oui,
mais
forcément.
La petite fille qui mettait toutes ses chaussures au pied du sapin, ça trouvait ça hyper mignon. Merci pour tous vos messages.
Moi-même, je suis émue. Merci Eva. Merci chers auditeurs.
Europe 1. Il est 6h42, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe sans oublier vos zygomatiques. À suivre, ces deux éditorialistes qui mériteraient eux aussi de faire leur entrée sur We Are The Champions, chanté par les chœurs de l'armée rouge. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent avec aujourd'hui au programme notamment...
Tu veux pas.
Annonce, annulation, puis quelques heures plus tard, annulation de l'annulation. Retour avec Mickaël Darmon sur ce cafouillage du gouvernement qui avait annoncé revenir sur les premières mesures en faveur des gilets jaunes.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Gouvernement et députés en plein sprint pour mettre en application les mesures promises par le président aux Gilets jaunes. Présentation d'un texte en Conseil des ministres ce matin qui devrait être voté au Parlement d'ici la fin de la semaine. Les policiers maintiennent leur journée morte dans les commissariats aujourd'hui. Les syndicats ont été reçus hier par le ministre de l'Intérieur. Une prime exceptionnelle de 300 euros leur a été promise. Ils demandent encore des mesures pour leurs conditions de travail. Enfin, le PSG qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Ce soir, l'OM reçoit Strasbourg. Lyon se déplace à Amiens. On suivra aussi le derby breton. Rennes-Nantes.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et à l'heure de les retrouver, je ressens la même émotion que jadis enfant. Lorsque le 24 au soir, ma mamie mettait Jingle Bells par les chœurs de l'armée rouge et qu'elle plaçait au cœur de la crèche les 300 tons des rois mages. Voici leur équivalent moderne, les trois fantastiques. Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie et Eva Rock pour la télévision. Eva qui nous conseillera ce soir sur M6 un numéro exceptionnel de scène de ménage. Scène de ménage qui ne surviendrait jamais ici. Axel est trop gentleman pour ça, il ne pense que du bien d'Eva Rock.
C'est comme une chaudière, hein. Quand elle est en sur-régime, il faut refroidir la chaudière.
Ah le cochon !
Ah, j'ai parlé trop vite. On a parfois des petites scènes de ménage, nous aussi.
Vous êtes...
Mickaël Darmon, on commence par la politique. Journée rocambolesque hier. Matignon a commencé par annoncer l'annulation des mesures d'allègement de charges énoncées en novembre. Et puis, quelques heures plus tard, rétro-pédalage du gouvernement et annulation de l'annulation. On a besoin d'un décryptage.
Écoutez, une certitude, on ne s'ennuie jamais avec la majorité. Son potentiel créatif reste intact. Donc, précédemment, dont annulation. Lundi, le patron des députés de La République En Marche, Gilles Legendre, a expliqué que leur problème, c'est d'avoir été trop subtil, trop intelligent, trop technique pour expliquer les mesures pouvoir d'achat. Bref, en toute modestie, il va falloir faire simple et lisible. Donc, place au travail. Vos pratiques. Hier, devant les députés, le Premier ministre est venu expliquer la hausse de la prime d'activité aux députés, plus de justice sociale, plus de bénéficiaires. Édouard Philippe a motivé les troupes pour le service après-vote et surtout pour les convaincre. Tout va bien, il est totalement sur la ligne du président. Bon, en général, lorsqu'on se sent obligé de rappeler ses principes, c'est qu'il y a un petit souci. Mais passons, on a compris, apaisement et dialogue au programme. Mais voilà, à 17h, le gouvernement annonce l'annulation des mesures de novembre sur le pouvoir d'achat, la hausse du chèque d'énergie, on s'en souvient, la réforme du barème kilométrique et le doublement de la prime de la conversion annulée au motif qu'elle ne s'impose plus. De quoi atterrer les élus de La République En Marche qui s'emportent très très fort et le font savoir. À 19h, Matignon annule l'annulation. Après en avoir discuté avec les parlementaires de la majorité, dit Matignon, bref, on vous le disait, apaisement et dialogue. Alors on se pose la question, et si c'était vrai? Et si cette équipe était beaucoup trop subtile et beaucoup trop intelligente?
D'autant que la boîte de Pandore est ouverte maintenant. Vous avez déniché une autre taxe qui n'a pas été annulée, elle concerne les agriculteurs.
Et oui, elle est cachée dans un recoin du projet de loi de finances, figurez-vous, sous le sigle RPD, redevance pour pollution diffuse. En clair, des pesticides divers et variés, une hausse sur cette redevance donc est encore au budget. Elle pourrait rapporter 50 millions d'euros à l'État, avec pour conséquence un poids supplémentaire sur les trésoreries des exploitants. Le budget est revenu à l'Assemblée. On verra si cette mesure sera obligée, allégée ou reportée dans quelques jours. Réponse effectivement donc à la fin de la semaine. Et dans la majorité, on compte les jours avant la trêve de Noël, car depuis fin août quand même, en crise perpétuelle, la Macronie continue à marcher, mais en zigzag.
Mickaël Darmon, comment vous expliquez ça? Au début, on a l'impression qu'au début du quinquennat, on parlait d'une maîtrise du timing, on parlait du maître des horloges pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse, il court derrière la montre.
Oui, c'est l'horloge qui donne effectivement maintenant le temps donc, au gouvernement. Tout est en crise perpétuelle, tout a effectivement est sorti
vous
de la
route. Vous pensez que d'ici la fin du quinquennat, ça peut s'inverser, qu'Emmanuel Macron peut reprendre le contrôle
Bah, tout est parti tellement vite que ça peut revenir dans l'autre sens également.
Vous savez,
en politique, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. De la politique, on passe à l'économie. Avec vous, mon cher Axel de Tarlet, notre inénarrable dauphin d'or. Le baril de pétrole chute sous les 50$. C'est donc un peu Noël avant l'heure pour l'automobiliste.
Voilà, moi c'est beaucoup plus simple que les subtilités de la politique. Quand le prix du pétrole baisse, bah, le prix de l'essence baisse. Alors si vous regardez à la pompe, le dernier relevé, donc le carburant est tombé à 1,43€ le litre. Alors maintenant c'est encore plus simple parce que ce soit l'essence ou le diesel, vous savez...
C'est le même prix.
Les deux sont à 1,43€. Donc soit une baisse de 10 centimes pour le diesel par rapport au pic qui avait suscité le mouvement des gilets jaunes, et même une baisse de 15 centimes par rapport à l'essence. Donc sur un plein, ça fait un gain de 6€. Et l'explication, donc on l'a dit, hein, c'est la baisse des prix du pétrole qui est assez spectaculaire. Ce matin, on est à 46$ le baril. Au pic, le 3 octobre, on était à 76$ le baril, soit une chute de 40%. Vous vous rendez compte, en deux mois du prix de l'essence. Et l'explication, eh bien, écoutez, en octobre, on était dans un scénario de pénurie. On se faisait peur, c'est avec l'embargo sur l'Iran. Et maintenant, on est dans un scénario totalement inverse, dans un scénario d'abondance. D'une part, on se dit l'économie ralentit, donc la demande va être beaucoup plus basse. Et puis de l'autre côté, que s'est-il passé ? Aux États-Unis, vous avez des producteurs de pétrole de schiste. Ce sont de petits puits qui sont très faciles à allumer et à éteindre. Mm-hmm. Et quand le baril est monté, là, 70-80$, exactement, tous les petits producteurs...
Vous êtes en train de dire que Donald Trump avait raison ? Bah, économiquement, je parle d'un point de vue financier en tout cas.
Tous les petits producteurs américains, en tous les cas, se sont mis à produire massivement du pétrole, ce qui fait que les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole devant l'Arabie Saoudite. Et donc, c'est bien cette abondance de pétrole qui est en train de faire chuter les cours, qui se répercute à la pompe.
Si je vous comprends bien, Axel, Nicolas Hulot, s'il nous écoute, s'étrangle, puisqu'on ne prend pas du tout le chemin de la transition écologique vers une économie sans carbone.
Voilà, jamais l'Amérique n'a produit autant de pétrole. Et il y a une autre mauvaise nouvelle qui est tombée hier, c'est un hasard, c'est que le charbon, qui est beaucoup plus polluant, depuis deux ans, la consommation mondiale de charbon était en train de baisser. Mauvaise nouvelle, en 2017, elle est repartie à la hausse, plus 1%, notamment à cause des Chinois. J'ai vu ce chiffre, je n'en reviens pas. Les deux tiers de l'électricité en Chine, 67%, est produite avec du charbon. Ce qui fait qu'en Chine, quand vous roulez avec une voiture électrique, vous croyez que c'est écolo ? Pas du tout, parce que l'électricité est produite dans des centrales à charbon. À la limite, mieux vaut rouler en Chine dans des voitures à essence, parce que l'essence pollue plutôt moins que le charbon. Oui, tout cela est assez navrant, mais vous savez, c'est un peu dans la lignée, je trouve, de cette COP24 de Katowice, qu'il faut bien le dire. D'ailleurs, j'espère que je le prononce bien, parce qu'il faut bien dire que ça a passionné assez peu de monde. Oui, je suis désolé de plomber le moral, mais c'est pas très encourageant pour
Axel,
la
là,
suite
vraiment,
des choses.
J'ai le moral à zéro. Rayons un peu, Eva. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé
oui,
ce soir?
Oui, je vais essayer de vous faire rire.
Oui, essayez,
de faire rire. M6 propose un numéro spécial de scène de ménage à partir de 21h. C'est l'occasion de retrouver nos couples préférés à quelques jours de Noël. Alors, il s'est vraiment scénarisé en fonction de Noël. Par exemple, les Quinca, Liliane et José, eux reçoivent leur fils venu spécialement de Chine avec son épouse et son bébé. Les trentenaires Emma et Fabien, eux, se retrouvent en garde à vue. Et puis, on a Huguette et Raymond, nos vieux de service, qui se sont mis en tête d'aller kidnapper leurs copains à la maison de retraite pour qu'ils puissent passer Noël avec eux. Opération commando, très bien organisée, enfin presque.
Tokiwoki.
C'est bon.
Couteau suisse.
C'est bon.
Pâte de fruits.
C'est bon. Dis-moi, mais ça sert à quoi toutes ces pâtes de fruits?
Bon, si un vieux nous repère, hein,
oui.
Bon, on lui met une pâte de fruits dans la bouche, le temps qu'il la bouffe, nous on fuit, et il n'a pas le temps de nous cafeter. Neutralisé par le plaisir du sucre, voilà.
Ah d'accord. Ah oui, en fait, c'est une grenade étourdissante pour vieux, c'est ça?
Exactement. Mais attention, parce que si le vieux est diabétique, il ne faut pas lui en mettre plusieurs, parce que ça risque de devenir une grenade aveuglante.
Ah oui, ça c'est sûr.
Alors, vous savez peut-être que Scène de ménage accueille depuis la rentrée un jeune couple formé de Leslie et Léo. Les deux amoureux se retrouvent chez la mère de Leslie qui habite dans une cité de banlieue. Et pour ce Noël, c'est direction le bar du coin pour un couscous un peu arrosé.
Maman, t'as tout pris?
Oui, oui.
T'as pris tes éthylotests?
Ah non, mince.
Mais pourquoi des éthylotests? C'est dans le bar d'en bas, non? On y va plus?
Non, mais c'est à cause des mecs. Quand j'ai un petit coup dans le nez, je trouve qu'ils ressemblent tous à Brad Pitt et des fois le lendemain, je me réveille à côté de Mélenchon. Je préfère prendre mes précautions.
Ah. Maintenant, quand elle quitte un bar avec un mec, elle souffle. Comme ça, si elle a plus d'un gramme, et ben, elle le suit pas.
Ah oui, elle s'assagit.
Bah avec l'âge obligé, hein. Sauvé.
Évidemment, j'ai choisi cet extrait totalement au hasard.
Mais bien sûr, vous imaginez bien. Un biopic.
Écoutez, franchement, c'est le programme divertissant à regarder en famille. Toutes les scénettes ne sont pas réussies, mais on zappe sans trop s'arrêter sur la différence de qualité. En revanche, et ce sera mon bémol pour cette soirée, où sont passées les scènes de ménage. Parce qu'en fait, il y a bien quelques éclats de voix, mais il n'y a pas de crise en tant que telle.
Oh, pas de
toutes ces
qui
crises
claque.
Oui, qui faisaient le sel un peu de la série depuis sa création en 2009, parce que ça fait presque déjà 10 ans que la série existe. Les histoires imaginées pour ce Noël si particulier, elles finissent finalement par l'emporter sur les engueulades qui rythment la
mais
vie
mais
des
c'est
couples.
C'est l'esprit de Noël aussi.
C'est la magie
là.
De Noël. Voilà.
Oui,
mais maintenant, les scènes
Noël.
De ménage oui, mais sont à l'Élysée.
Oui, peut-être, peut-être, Axel. Mais les scènes de ménage, c'est ce qui faisait qu'on se retrouvait aussi dans cette fiction, enfin, quand on est en couple. Et donc là, on se reconnaît un peu moins dans ces scénettes, on peut l'avouer. Et je voulais vous signaler autre chose, la Grande Librairie spéciale littérature jeunesse, ce soir à partir de 21h sur France 5, ça va vous donner encore des bonnes idées de cadeaux pour les enfants.
Et c'est surtout Axel de Tarlet qui a eu une très bonne idée pour M6, faire un numéro spécial de scène de ménage avec, en demandant starring exceptionnellement Édouard Philippe et Emmanuel Macron.
Voilà,
ah,
une petite scénette
mal.
Entre
ce serait pas
ça serait effectivement assez étonnant
très
et ça pourrait
idée.
Booster leur popularité à mon avis. Merci beaucoup Eva Roque, merci Axel. Merci Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain, peu avant 7h moins le quart. Céline, un dernier mot?
Prout prout tagada.
Merci, bah, comme ça tout le monde a parlé.
Europe 1.
Il est 6h53, Mathieu Noël.
Dans quelques instants, Debout les copains ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et entre ce que vous aurez réellement entendu à l'antenne et ce qui n'aura été finalement qu'un rêve, fruit de votre imagination débordante, où Mika reprend Vive le vent, bourré au Cointreau, sous l'œil atterré de Céline et Eva.
Vive le vent.
C'est très très bizarre. Qu'est-ce qu'il lui a pris?
Tout ça sera balayé par la matinale de Nikos Aliagas, précédée évidemment de son débrief.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Chers auditeurs, voici venu le moment des adieux. Ce moment déchirant où, sur le quai de la gare, avec Eva Roque, nous agitons nos mouchoirs en direction de Céline Dacosta qui nous laisse en plan et embarque seule à bord du 7-9 d'Europe 1. Oui, on est à vapeur encore à Europe 1.
Et à charbon.
Un train mené par cette rutilante locomotive qu'on appelle Nikos Aliagas.
Mais bon, il n'y a pas que la machine, il y a l'homme. Mais l'homme, le vrai, il est là.
Bon, oui, il est là, je le confirme. Bonjour Nikos. Bah, Nikos n'est pas encore là en fait,
enfin,
hein, je vous révèle
bonjour,
les quiz. L'homme est presque là. Nikos, qui en cette mi-décembre est entré dans la phase bien connue de tous les gros bosseurs, ceux qui n'ont pas compté leurs heures cette année, la phase dite OTCBN. On s'en tape, de toute façon c'est bientôt Noël. Une phase où même si on n'est pas encore tout à fait en vacances techniquement, on l'est déjà un peu dans dans sa tête. Et entre nous, s'il y en a un qui peut se permettre de se relâcher un peu, c'est bien Nikos, qui depuis le début de la saison a reçu les plus grands à ce micro. Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquet, Alain Voulzy, Laurent Souchon. C'était soit lui qui menait l'interview, soit sa collègue.
Audrey Crespo-Mana.
Oui, et avec tous ces noms à retenir, beaucoup de noms, hein, de prénoms, Nikos n'a même plus le temps d'aller dîner dans les grandes tables étoilées, comme par exemple chez les frères Troisgros.
J'ai regardé ce matin sur les ordinateurs et sur les images satellites, c'est que la France est couverte de...
Ah non, c'était pas trop gros.
Non, c'est pas le bon son. Non, alors dites-moi en régie, puisqu'en régie, visiblement, on a déjà mis ses moufles pour l'hiver, avec le froid qui arrive, comme nous l'annonçait Céline Acosta. Mais alors, envoyons le bon son.
Et ce samedi, vous recevrez le chef Michel Trogros.
Oui, Michel Trogros, Paul Bocu, Marc Verru, Anne-Sophie Slip, Alain Ducon. Nikos n'a hélas plus le temps pour les restos des chefs étoilés. Une chose est sûre, les vacances nous feront beaucoup de bien à tous. Quand on pense qu'hier matin, Laurent Cabrol a bugué une demi-heure devant son écran d'ordi, se disant que ses cartes météo étaient bizarres.
J'ai regardé ce matin sur les ordinateurs et sur les images satellites, c'est que la France est couverte de brume, de brouillard et qu'on ne voit pas grand-chose.
Avant de réaliser que le cordon d'alimentation n'était pas branché. On se dit que oui, les congés de fin d'année vont faire du bien, surtout à ceux qui, comme Nikos, sont plus très loin du burn-out, comme on a pu le constater hier avec notre expert innovation Anissé Mbida, alors qu'il était en train de vous parler d'un programme de positionnement par satellite et que votre esprit était visiblement ailleurs.
On voit toujours le GPS américain, on voit un petit peu les Chinois Beidou, mais sur Paris, par exemple, on voit rarement les satellites Galiléo. Donc
vous disiez Galiléo, j'avais Queen dans la tête. Galiléo, Galiléo.
Oui. Galiléo aussi, mon cher Nikos. Céline Veillès qui prenne bien ses 3 comprimés par jour, hein, pas un de moins.
Bravo.
Non mais pas vous, vous n'aviez pas cette chanson en tête.
Ah mais à vrai dire oui. Je me moque de vous, c'est juste mon métier, mais moi aussi, quand on dit ce satellite Galiléo, je pense tout de suite à ça.
Ah bon,
ça donne quoi, ça donne quoi, chantez pas.
Galiléo, Galiléo.
Eh ben voilà. Bravo. On est tous contaminés, mesdames et messieurs. Bon réveil à vous, merci Mathieu Noël, merci Eva Rock.